commencer une nouvelle période qui s'appelle Ben HaMetzarim. Une période de 3 semaines par année. Une période de 22 jours, du 17 Tammuz jusqu'au 9 Av. Alors en général, on éprouve malheureusement une certaine réticence par rapport à cette période. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, on n'aime pas la tristesse. On aime la joie. On aime le bonheur. On aime kiffer. Et en fait, entre parenthèses, ce n'est pas par hasard. C'est le fait de vouloir chercher dans sa vie toujours le bonheur et la joie. C'est une caractéristique qui est, d'après la Torah, positive. Parce qu'en effet, la neshama, notre âme, elle provient d'un monde céleste par rapport auquel il est écrit « Os vechedva bimkomo ». C'est-à-dire que « chedva » c'est une joie, joie spirituelle. La joie demeure dans, la joie règne dans la demeure d'Hachem. Et notre neshama qui provient de ce monde-là, eh bien c'est pourquoi la neshama, lorsqu'elle est envoyée sur terre dans un corps, elle va continuer à chercher cette joie, ce bonheur, cet épanouissement. Mais évidemment, à nous de diriger cette recherche après le bonheur vers des pôles et des rivages dans le domaine spirituel, dans le domaine de la Torah et des mitzvot, de s'épanouir avec cette Torah, de fusionner avec la mitzvah, et non pas dans d'autres domaines, dans le domaine matériel. Mais le fait de chercher le bonheur et la joie, c'est une caractéristique qui est a priori positive. Et c'est pourquoi, en effet, on éprouve une certaine réticence par rapport à cette période qui s'appelle Ben HaMetzarim. Parce qu'on n'aime pas la tristesse. Mais en fait, il faut bien comprendre, bien saisir, eh bien que cette période n'est pas là pour nous attrister, mais au contraire, pour nous réjouir, pour nous amener la Géoula. Alors, mis à part, entre parenthèses, qu'il y a une Sgoula très spéciale. Nos sages ont dit, « Kola mit abel a Yerushalayim, zoche vero ebe simchata. » Tout celui qui va s'endeuiller sur Beit HaMikdash et Yerushalayim, eh bien, il va mériter et voir sa joie, sa splendeur. Alors, il y a un diouk, ce n'est pas écrit, « Yiske veir ebe simchata. » Pas que dans le futur, il va pouvoir mériter. Mais Zohéveré dans le présent. Dans le présent, il va déjà participer à la joie des Rochalim. Ça veut dire quoi? Parce qu'en fait, c'est écrit sur Beit HaMikdash, Mesos Kolaretz. Mesos Milachon Sasson. C'est-à-dire que Beit HaMikdash était en fait le centre de la joie au monde entier. La joie de l'univers, eh bien, était concentrée sur le Beit HaMikdash. La joie divine est véhiculée par le ciel, par le Beit HaMikdash, et ensuite va se disperser sur Yerushalayim, Eretz Israël et le monde entier. Donc en fait, si on veut se raccrocher à la source de la joie et du bonheur dans l'univers, c'est spécifiquement par le Beit HaMikdash. C'est pour quelqu'un qui demande le Beit HaMikdash, et bien il y a une Sgoula que ça va lui véhiculer, lui amener la joie, même dans sa vie quotidienne. Essayez, Zé Badouk Nousé. Donc c'est prouvé, si on s'intéresse à Yerushalayim, même si on va se lamenter et pleurer sur le temple détruit, ça va, à longue échéance, t'amener une joie dans ta vie quotidienne. C'est une parenthèse. Donc en fait, c'est un tort d'éprouver une certaine réticence par rapport à cette période, parce qu'au contraire, c'est cette période qui peut nous amener la Géoula prochaine, ainsi que la Simcha, la joie, dans la vie quotidienne. Alors on va essayer d'expliquer qu'est-ce qu'on peut réaliser pendant cette période. Alors tout d'abord, cette période comprend 22 journées. Dans une journée, nous avons 24 heures. Au total, ça nous donne 528 heures. 528, c'est la gematria valeur numérique de Maftéar. Maftéar, c'est une clé. Parce qu'en fait, Maftéar a Géoula, Tamunkan. La clé de la Géoula, de la réussite, eh bien, se trouve spécifiquement dans ces 528 heures. Et ça veut dire qu'en fait, chaque heure est à prendre en considération. Dans chaque heure de ces 3 semaines, on peut réaliser quelque chose qui va permettre de véhiculer, d'amener la Géoula. Deuxièmement, nous avons dans ces 3 semaines 70 tfilotes à réciter. 22 journées fois 3 tfilotes, 66, plus 4 moussafim, de 3 Shabbatot et un Rosh Chodesh, on a exactement 70 tfilotes. 70, ça nous fait rappeler les 70 nefashot de Yaakov Avinu. Parce qu'en fait, a priori, à la source, à la base, Am Israël est composé de 70 âmes générales, importantes, qui vont ensuite se séparer en 600 000, et ensuite, encore, entre d'autres étincelles de Neshamot. Bon, c'est une notion kabbalistique, on ne comprend pas. Mais, a priori, à la base, nous sommes Shiv'im Nefesh. Bishiv'im Nefesh, Yardou, à votre Amitraïma. Yaakov et ses enfants, comprenez, 70 Nefashot, 70 âmes. Et donc, en fait, pendant ces 70 tfilotes, on peut réaliser le tikkun, c'est-à-dire la réparation, la perfection d'Am Israël. On peut amener l'Am Israël à sa perfection pendant ces 3 semaines par les 70 tfilotes qu'on peut réaliser. Alors en fait, attendre d'espérer à la Géoula, ce n'est pas uniquement une parabole, un conseil, mais c'est impératif. D'après l'avis du SMAC, Smak Sande Rishonim, environ 900 ans, c'est une des mitzvot minatora, une des 113 mitzvot, d'après la Géoula. Moi, d'après le Rambam, c'est différent. Le Rambam ne dit pas que c'est une des impératives. Mais cependant, le Rambam écrit, celui qui ne croit pas à la Géoula, « Oh, kol michelon mechake le biato kafabatora » Celui qui ne croit pas à la Géoula, ainsi que celui qui n'attend pas la vie de Mashiach, c'est comme s'il a renié toute la Torah entière. C'est tellement important, tellement impératif, c'est une des bases, un des fondements de la Torah. En effet, eh bien, Maïmonide l'a inscrit parmi les 13 attributs de foi qui sont des concepts de base de la Torah et du judaïsme. Donc ce n'est pas uniquement pour pouvoir arrêter la crise dans l'univers et dans le monde, mais c'est un impératif pour réaliser, n'est-ce pas, sa Torah et sa perfection en tant que Ben Israël. Top. Alors, les maasés, réellement, pour comprendre qu'est-ce qu'on peut réaliser pendant cette période. On va amener une histoire assez connue qu'on a ramenée l'an dernier. Elle est rapportée dans un livre qui s'appelle Lev Eliyahu, du Rav Eliapian, à la fin du livre. Le grand philosophe grec Platon, qui était l'élève de Socrate et le maître d'Aristote, alors Platon avait entendu parler souvent du grand dirigeant spirituel juif qui s'appelait Yirmiyahu Navi, Jérémie le prophète. Il avait pendant longtemps espéré le rencontrer. Et parce qu'il avait entendu parler de lui, on lui a dit, cet homme-là pourra t'aider à résoudre toutes tes questions philosophiques. Et un beau jour, il a réussi à le rencontrer. Et c'était quand? C'était précisément lorsque Beth Amikdash, le premier, a été détruit. Parce qu'en effet, Yirmiyahu, c'était lui qui a prophétisé que le Beth Amikdash sera détruit. Et c'est lui qui a assisté au temple détruit. Et Platon voit Yirmiyahu en train de pleurer et de se lamenter sur le Beth Amikdash détruit. Et Platon lui dit, j'ai deux questions à te poser. Un homme de ton envergure, de ta dimension spirituelle et morale, il ne convient pas à un homme comme toi de pleurer pour des pierres, sur des ruines. Même si dans ce bâtiment, il y a des millions qui ont été perdus, en effet, beaucoup d'or et d'argent dans le Beth Amikdash, il ne convient pas à un homme de ton envergure spirituelle de pleurer pour de la matière. Un homme comme toi doit être préoccupé, intéressé par des valeurs morales et spirituelles uniquement. La matière, ce n'est pas quelque chose d'important. Même s'il y a des millions, ce n'est pas une valeur morale. Alors en effet, une question qui relève de la grandeur morale et philosophique de Platon. Parce qu'en fait, Platon aussi a bien compris que Yirmiyahu ne se laissait pas aller au sentiment. Ce n'est pas qu'il était débordé par son sentiment de chagrin. Il a bien compris que si Yirmiyahu, avec sa grandeur, pleurait sur le thème de H, ça veut dire que il estimait qu'il y avait une raison objective, impérative de pleurer, de se lamenter. Ce n'est pas quelqu'un qui pleure parce qu'il est chagriné, pas du tout. Il y avait ici une raison, une idéologie bien déterminée. Seconde question, lui dit Platon. Même s'il y a lieu de pleurer pour une telle raison, on ne pleure pas pour le passé. Le passé est effacé, c'est terminé. Il faut à présent bâtir, édifier par rapport à l'avenir. Ça va te servir à quoi de pleurer sur le passé? Encore une question qui montre de la grandeur de la pensée mutation de Platon. Parce que là aussi, il était persuadé que Hermione ne se laissait pas aller au sentiment, au chagrin de ce qui a été détruit dans le passé. Hermione lui répond, lui dit, certainement, il y a des questions de philosophie qui te préoccupent. Platon lui dit, en effet, il y a des questions auxquelles je n'ai pas de réponse. Hermione lui dit, eh bien, bon, on va en discuter. Et Platon a commencé à énoncer toutes ces questions dans le domaine de la philosophie, une à une. Et après, Miaou a commencé à répondre à toutes les questions, une à une, pendant quelques heures, de façon magistrale, à tel point, il est écrit là-bas, que Platon se demandait, est-ce qu'il avait en face de lui un homme, ou alors un malach, un ange? Tellement il était fasciné par sa grandeur morale et spirituelle, par la sagesse de Hermione. Et ensuite, Hermione lui dit, eh bien, sache et comprends que toute ma sagesse, tout mon savoir, il provient de ces pierres-là. Tu as raison. On ne pleure pas pour des pierres, pour un bâtiment, même plein d'or et d'argent. On pleure pour des valeurs morales et spirituelles. Et c'est pour ça que je pleure. Parce que nous avons perdu, eh bien, cette proximité avec Dieu, cette influence divine. Parce qu'en effet, nos sages nous ont dévoilé que le savoir divin, l'influence divine, était véhiculée du ciel directement par le Kodesh HaKodeshim, Beth Amikdash, Yerushalayim, Israël, et ensuite dans le monde entier. Et une fois que le Beth Amikdash a été détruit, eh bien, on a perdu tout cela. Dorénavant, eh bien, notre savoir va être réduit. Notre compréhension, notre connaissance, le fait de mémoriser la Torah, cette proximité avec Hachem, le fait d'être proche d'Hachem, qu'Hachem nous répond, nous répondait par les prophètes, nous répondait par les Urim Vetumim, pas par le Kohen Gadol. Tout cela, on a perdu. Et ce sont des valeurs morales et spirituelles qui nous manquent. Pour la seconde question, lui a-t-il dit, je ne pourrai pas te répondre, tu ne pourras pas comprendre la réponse. En fait, la réponse, elle est ramenée autre part, dans un livre qui s'appelle Das Chochma Moussar, rédigé par le Rav Simcha Zissel, un des grands élèves du Rabbi Israël Salanter, il y a environ 150 ans. Et la réponse est la suivante. En effet, on ne pleure pas pour le passé. Il faut, au contraire, bâtir, édifier l'avenir. Mais précisément, on pleure, on se lamente sur le Beth Amikdash parce que nos larmes et nos lamentations sont en train de reconstruire, de rebâtir le troisième Beth Amikdash, le troisième temple. Et là, en effet, Hermione était persuadé que Platon ne pourrait pas comprendre une chose pareille. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est en train de réaliser une prière, une demande, en exprimant eh bien, un chagrin, une lamentation pour le temps détruit, nous sommes en train de rebâtir le troisième Beth Amikdash. Alors, on va essayer d'expliquer ces deux notions importantes. La première notion, Hermione nous a dévoilé qu'en fait, tout le savoir divin, la connaissance, la sagesse, elle provient du Beth Amikdash. C'est-à-dire qu'il y avait un flux divin, une bracha, une bénédiction qui était véhiculée par le Beth Amikdash et qu'on a perdu une fois que ce temple a été détruit. Alors en fait, c'est en effet l'un des problèmes, c'est qu'on ne se rend pas compte de ce qui nous manque et ce qu'on a perdu. Et c'est pourquoi il nous est difficile de demander à Hachem la Géoula. Alors on demande évidemment, quand il y a la crise, quand ça ne va pas, on dit « ma chère, on chante, que ma chère vienne ». Mais réellement, est-ce que c'est quelque chose de très important dans notre vie? Est-ce que ça nous dérange, ça nous préoccupe? Est-ce que c'est notre première préoccupation? En général, non. Et pourquoi? Parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas ce qu'on a perdu et ce qu'on peut regagner. Alors c'est pourquoi, en effet, il est intéressant toute l'année, et précisément pendant ces 3 semaines, de s'intéresser, de lire les midrashim, les gemarot, les textes, les commentateurs, qui parlent de cela, qui nous relatent qu'est-ce qui s'est passé, qui nous racontent qu'est-ce qu'il y avait au Beit HaMikdash et qu'est-ce qu'on a perdu. Alors on va donner quelques exemples pour avoir uniquement un aperçu général de ce qu'on avait du temps du Beit HaMikdash. Le Midrash nous dit la chose suivante. Lorsque une fille se mariait dans la ville de Jérusalem, dans le Beit HaMikdash, cette fille ne se parfumait pas. Pourquoi? Parce que son parfum allait être superflu, elle est de trop. Parce que la ktorette, l'encens qu'on a au Beit HaMikdash matin après-midi, eh bien, embaumait toute la ville de Jérusalem, jusqu'à même Yericho, à tel point que, même pour une kala, le parfum qu'elle mettrait sur elle passerait inaperçu. Ce n'était pas la peine de se parfumer. Tellement, n'est-ce pas, c'était un des miracles qu'il y avait, c'est que le parfum de la ktorette se propageait dans toute la ville jusqu'à Yericho. Yericho, c'est 40 km de distance d'Yerushalayim. Alors, il y a deux avis. Est-ce que c'est jusqu'à Yericho ou alors uniquement dans la ville de Yerushalayim ainsi que de Yericho? Pourquoi Yericho? Parce que c'est la première ville qui a été conquise par Yehoshua. Alors, à la fin des temps, surtout n'ouvrez pas une parfumerie à Yerushalayim parce que vous ferez faillite. Les parfums seront superflus. En effet, la ktorette va parfumer toute la ville entière. Encore un miracle qu'il y avait, les Levim chantaient. Les Levim chantaient, et leur chant, sans microphone évidemment, était entendu dans toute la ville d'Yerushalayim, encore une fois, jusqu'à Yericho. C'est encore un miracle qu'il y avait. Dans Pirkei Avot, la Mishnah énonce plusieurs miracles qu'il y avait tous les jours. Jamais une viande n'a pourri dans le Beit HaMikdash. Jamais la fumée qui sortait des sacrifices brûlés n'a été perturbée, plus ou moins tordue, par les vents qu'il y avait dans la ville. Bon, c'était plusieurs miracles qui se passaient tous les jours au Beit HaMikdash. Et plus que ça, la Gemara dit en fait que depuis que le Beit HaMikdash a été détruit, eh bien, les fruits nital tamperot, les fruits ont perdu de leur goût, de leur saveur. Même si les oranges Jaffa qu'on a en France sont de bonne qualité, mais ça n'a rien à voir, vraiment rien à voir, avec ce qu'il y avait au temps du Beit HaMikdash et même auparavant. Alors, pour nous donner un aperçu de ce qu'il y avait, on a lu il y a quelques semaines Parashat Shelach Lecha. Dans Shelach Lecha, alors on raconte que Moshe Rabbeinu a envoyé des meraglim, 12 explorateurs, explorer le pays. Et ils ont ramené les fruits de la terre. Alors parmi les fruits, il y avait une téhéna, une figue, et une grenade, et une grappe de raisin. La grappe de raisin était portée par 8 hommes. Les hommes, les Bnei Israël, le Temple Midrash, étaient hyper costauds. Il y avait un siège sur la ville pendant 3 ans et demi. Il n'y avait aucune provision. Ils jeûnaient pendant des journées entières. Et ils se battaient comme des lions contre les ennemis. Ils avaient une force qui nous dépasse. Et en effet, cette grappe de Midrash était énorme. Elle pesait, selon les avis, entre 7000 et 14000 kilos. Une seule grappe de raisin. Parce qu'en effet, chaque raisin était gros comme une pastèque. Le Midrash dit, la fille d'un des géants a mangé une fois une figue, et puis elle a jeté la peau de la figue dans le jardin. Et son père lui dit, tu salues le jardin, enlève la peau du jardin. Parce qu'en effet, la peau était énorme, mais elle salissait le jardin. Cette peau paraissait comme une petite grotte. Et par hasard, les 12 hommes explorateurs sont arrivés dans ce jardin. Ils ont mis une grotte sans rentrer dedans. Et la fille descend dans le jardin. Et puis elle prend la peau de la figue, donc qui était que cette grotte-là. Et puis éjecte cette peau avec les 12 hommes en dehors du jardin. C'est pourquoi en effet, ils ont pris peur. Si la fille des géants, par un tour de main, peut commencer à les éjecter, alors ces géants, quelle force herculienne ils avaient. Ça, n'est-ce pas, c'était un des indices pour nous montrer qu'est-ce qu'il y avait comme miracle dans la terre d'Israël. Du temps encore de la Gemara, il était dangereux de manger, de boire une cuillère d'huile d'olive. Tellement, n'est-ce pas, son goût était piquant. Les gens, évidemment, au contraire, c'est recommandé par les diététiciens, ça n'a aucun effet nocif, parce qu'en effet, ça a perdu son goût, sa saveur, son intensité, ça a perdu beaucoup. Top. Et, entre parenthèses, on remarque aussi un fait important qui nous parle de la Géoula. c'est que ces miracles-là se passaient il y a 1900 et quelques années, et bien auparavant. Et depuis que les temples ont été détruits, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté. En effet, les grands historiens, pendant 1800 années, témoignent que la terre d'Israël était quasiment déserte. Il n'y a jamais eu des millions qui l'ont habité pendant 1800 ans. À noter que cette terre a été conquise par 19 pays et la ville de Jérusalem a été rasée 9 fois. Si le temple a été détruit 2 fois, mais la ville a été rasée au total 9 fois. Et l'histoire témoigne qu'en fait, jamais aucun pays n'a pu vraiment peupler cette terre-là, et quelques milliers, quelques dizaines de milliers maximum. Et deuxième point intéressant, c'est que jamais cette terre n'a donné les fruits à personne comme Israël. Et en effet, c'est une des voies de la Torah et de Yéhizkel. Dans la Torah, s'écrit « Veshamemu alea oivechem ». C'est-à-dire, nous dit la Torah que, dans Baruch Kotaï, que les bénis Israël vont être exilés, et la terre sera déserte. Non seulement cela, même les ennemis, oivechem, les ennemis, ils vont déserter dans cette terre. Dit le Ramban, c'est une prophétie pour nous dire qu'en fait, les goïms, les ennemis, ne pourront, pendant presque 2000 ans, ne pourront jamais rendre cette terre fertile. Et au contraire, à la fin des temps, nous dit Hizkel, chapitre 37, « Vatem hare Israël, nous priechem. Vous, montagnes d'Israël, donnez vos fruits à ce peuple qui va de nouveau vous habiter. » Et la Gemara de Sanhedrin Tzadikhe dit « Amar Rabbi Abba, en lecha ketz megulemize. » Rabbi Abba nous dit « Il n'y a pas de preuve plus flagrante que la Géoula est proche. » Lorsque tu vois, tu constates que la terre d'Israël donne ses fruits, eh bien, c'est la preuve que la Géoula est proche. « En lecha ketz megulemize. » Il n'y a pas de preuve plus dévoilée, plus flagrante que la Géoula est proche lorsqu'on voit que cette terre d'Israël donne ses fruits. Et là aussi, c'est remarquable. Pendant presque 2000 ans, eh bien, les ennemis n'ont pas réussi à faire pousser ces fruits de la terre. Il y a beaucoup de témoignages grands historiens qu'en effet, la terre était aride, sèche, déserte. Dès qu'il y a une centaine d'années, on recommence à rhabiter cette terre, c'est là où cette terre donne ses fruits. Non seulement ça, dit le Midrash, sur le verset de Shir HaShirim, « Hineze omed achar kotlenu mashgiach minachalonot metzi minachalokim » dit le verset, Inézé, on dit le Midrash, Inézé c'est Hachem. Voici que Hachem se trouve derrière le côté de la Maravie. On dit le Midrash deux choses. Premièrement, En Ashrina Zaza Minakotel Leolam. Que la présence divine ne va jamais quitter le côté. Bien que le temple est détruit, mais cependant, il y a une promesse que Hachem, en fait, sa présence ne va jamais nous quitter. Évidemment, c'est avec une intensité différente. Mais cependant, Hachem est toujours avec nous. Comme dit le verset dans la Torah, Ashochen betortum otam. Même quelqu'un qui fait une avéra, une faute, eh bien, Hachem réside parmi lui. Sa présence divine est toujours là. Je rappelle ce qu'on a dit plusieurs fois, qu'en fait, on a trois dimensions différentes dans l'être humain, dans l'âme. L'âme comporte trois niveaux différents, qui sont appelés Nefesh, Ruach, Neshama. Nefesh, la partie la plus basse, niveau des... C'est le siège des instincts, des pulsions, des sensations. Ruach, c'est la partie intermédiaire au niveau du cœur, c'est la volonté, l'initiative. Et Neshama, c'est au niveau de l'esprit, la compréhension fine, objective. Ça, c'est Neshama. Et nous dit la première logique dans son livre Nefesh HaChaim, qu'en fait, quand une personne fait une avéra, une faute, il va affecter, souiller les parties de l'âme qui s'appellent Nefesh et Ruach. Alors que la Neshama n'est jamais souillée par aucune avéra. C'est pourquoi Ashochen betortum otam. Hachem réside même quand une personne fait une avéra, parce que sa neshama va rester toujours nickel. Kodesh Kodashim, quand il est tous les matins, neshama shatatabi teora. L'âme que tu m'as donnée, eh bien, elle est teora, elle est pure. Et c'est pourquoi, même quand le temple est détruit, la shrina, la présence divine, n'a pas quitté le kotel. Deuxième point du Midrash, il y a une promesse que jamais ce kotel, ce mur, ne va être détruit. Jamais il sera détruit. Et en effet, bien que la ville a été rasée 9 fois, le kotel n'a pas été détruit. On avait une fois un décret qu'il fallait jeter toutes les poubelles de la ville, eh bien, précisément à l'endroit du Beth Amikdash, pour mépriser. C'est pourquoi de nos jours, on a une porte qui s'appelle du kotel Shahar Hashpot, la porte des poubelles. En fait, parce que c'était l'endroit par lequel les gens devaient amener eh bien, leurs poubelles précisément en Beit HaMikdash. Eh bien, ce décret si grave a permis une fois d'éviter que le Kotel se détruit. Parce qu'ils ont rasé la ville, mais le Kotel était tellement enseveli en dessous de ces poubelles qu'ils n'ont pas vu. C'est-à-dire que la ville, le terrain de la ville était au-dessus du haut du toit du Kotel à Maravi à cause de ces poubelles. Pour confirmer encore la prophétie de Shir HaShirim, que Inezeh Omelech HaKotenu, que le Kotel ne sera jamais détruit. Donc, tout ça pour exprimer le premier point que nous a dévoilé Yirmiyahu HaNavi, qu'en fait, eh bien, la présence divine, la bénédiction, le feu divin, était véhiculé par l'intermédiaire du Beit HaMikdash. Et c'est pourquoi, en effet, on pleure non pas pour des pierres qui sont détruites, mais pour cette Shrina, cette présence divine qu'on a perdue, cette proximité avec Hachem, ces valeurs morales et spirituelles qu'on a perdues. Deuxième point qui nous a été dévoilé, c'est qu'en fait, eh bien, nos pleurs et nos larmes, nos prières ne sont pas là pour se lamenter, pour évoquer un événement passé, mais surtout pour reconstruire, bâtir le troisième Beit HaMikdash. Et par rapport à ça, il nous faut un grand chizouk. Parce qu'en effet, ce qu'il nous faut en général, et surtout pendant ces 3 semaines, c'est prendre conscience. Prendre conscience que, avec, grâce à nos prières qu'on va réaliser pendant les 3 semaines, avec les minagim, la halakhot qu'on va respecter, surtout le jour du 9 av, eh bien, c'est comme ça qu'on peut déclencher la Géoula. La parole de la Tfila, c'est elle qui va amener, qui va déclencher cette Géoula sur terre. Alors, on a expliqué plusieurs fois, on va le ramener brièvement. En fait, quel est l'impact de la parole? Quelle est l'importance de la parole dans le monde entier? Et en fait, n'est-ce pas, l'impact de la parole par rapport à nos prières, à notre philote. Alors bon, on a ramené plusieurs fois, certains vous connaissez, la plupart d'entre vous, ce qui est ramené dans le livre de la Révolution. Ramener là-bas que, en fait, la parole a un impact sur la matière. Pas les expériences qui ont été réalisées. Une goutte d'eau en face de laquelle on va prononcer certaines bénédictions pour la congeler et ensuite avoir un microscope. Et une goutte d'eau en face de laquelle on a certaines malédictions, eh bien, la différence, elle est flagrante. On voit au microscope que les molécules ont été transformées. Lorsqu'on prononce des malédictions, les molécules, eh bien, sont déchirées, sont pas jolies à voir, elles n'ont aucune harmonie. Alors que lorsque tu vas prononcer certaines bénédictions, au contraire, la molécule devient harmonieuse et symétrique. Pareil aussi pour des végétaux. Ils poussent beaucoup plus rapidement lorsque tu vas dire quelques bénédictions ou quelques perquetélimes en face d'eux. Et en fait, c'est démontré que la parole, bien qu'on l'entend pendant quelques secondes, mais en fait, c'est une onde sonore que tu es en train de véhiculer dans l'univers et qui ne disparaît jamais. C'est-à-dire, notre oreille, notre ouïe est conçue pour capter l'onde sonore quelques secondes. Mais en fait, cette onde sonore se propage dans l'univers et continue à agir. D'où la gravité, du lashon hara, de la critique, qu'en fait, c'est une onde sonore qui est négative, qui fait des dégâts dans le monde, à moins de l'effacer par la tchoua. Et d'où l'importance de l'étude de la Torah, la tfilé et la bracha, c'est une onde sonore qui est positive, qui agit sur la molécule de la matière et des végétaux, et Chol Sheken sur les êtres humains et le monde entier, et qui va agir de façon positive. On voit d'ailleurs ça quand on fait un Yortzeit pour une personne qui est décédée. Même après 20 ans ou 50 ans, on prend des aliments, même un verre d'eau, dire une bracha, et cette parole va avoir un impact sur la neshama d'une personne qui est décédée il y a déjà 50 ans, pour l'élever dans un monde céleste. Parce que ta parole, c'est une réalité spirituelle concrète qui ne disparaît jamais. Par aussi, lorsqu'on aborde Beit HaMikdash, bien comprendre que la tfila, en général et toujours, la tfila a un impact, une création réelle, éternelle. Et c'est elle qui peut déclencher Beit HaMikdash. Alors on a souvent la question, c'est que des fois on voit, on a l'impression que nos prières n'ont pas aidé. J'ai prié pendant une semaine, pendant un an, pendant 5 ans, ça ne marche pas. Question excellente. On a fait bien comprendre qu'en fait, la tfila aussi ne disparaît jamais. dit Zohar Kadosh, lit reuta tava, dit avida min alma. Il n'y a jamais une volonté bonne, positive, qui est perdue dans le monde. Chaque prière, chaque volonté, chaque sentiment que tu as ressenti, il est consigné éternellement. Une fois, le petit-fils de Stepler, le père du Rav Kaminsky, eh bien, a dit à son grand-père qu'il va aller au Kotel prier. Son grand-père lui a dit, tu vas au Kotel, prie pour moi aussi. Le jeune garçon a été étonné, a dit à son grand-père, moi je vais prier pour toi le grand sadique. Son grand-père l'a grondé. Il a dit, est-ce que tu ne sais pas qu'il y a une fila n'est jamais perdue dans le monde? N'importe quelle personne, même quelqu'un de simple, qui prie pour un grand sadique, sa tfila, elle va aider. La tfila, elle agit toujours. Des fois, ça marche tout de suite. Des fois, ça prend 1 an, ça prend 10 ans, ça prend 100 ans. Il y a une tfila qui marche, pas pour toi, mais pour tes petits-enfants. On a un exemple flagrant de cela, c'est Moshe Rabbeinu, il a prié pour entrer en Israël. Il a réalisé 515 tfilot. Et comme Hachem savait que la 516e tfila, il rentre en Israël, il a arrêté. Ravlar, ça suffit. Parce qu'Hachem, pour des raisons à lui, ne voulait pas que Moshe rentre. Alors pourquoi est-ce qu'Hachem a laissé Moshe prier 515 tfilot en vain. Alors dès le départ, dis-lui, Moshe, non, c'est pas la peine. Pas de te fatiguer parce que jamais tu vas rentrer. Il a laissé 515, ensuite il a arrêté. Pourquoi? Parce que cette fille de Moshe Rabbeinu, eh bien, le monde entier en bénéficie jusqu'à aujourd'hui. Ces filotes, elles agissent constamment, éternellement. Par exemple, le Maharsha explique que une des choses que Hachem a accordé à Moshe, il lui a dit, tu pourras regarder, contempler ta d'Israël. Allez, Rosh HaPisga, et ça y enera. Je te permets de monter sur la montagne et de regarder ça d'Israël. Dit le Maharsha, grâce à ça, nous avons aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, la bracha qui s'appelle Avira d'Israël Markim. La terre d'Israël nous donne un surplus de chokhma, nous véhicule un surplus de compréhension dans la Torah. Chokhma ta Torah. Cela grâce à la vision, au regard de Moshe Rabbeinu sur la terre d'Israël et qui lui a été accordé grâce à une de ces filotes ou plusieurs filotes. Et encore, n'est-ce pas, 514 filotes dans lesquelles nous bénéficions jusqu'à aujourd'hui. Donc bien prendre conscience que jamais une fila ne part en fumée. Tu as prié, ça agit. En fait, c'est aussi écrit qu'à la fin des temps, on va prendre conscience, se rendre compte que chaque fila que tu as réalisée par rapport au Beit HaMikdash ou dans tous les domaines, elle a agi. Tu as construit en effet par ta tfila, par tes larmes, eh bien une brique de plus au Beit HaMikdash. Et tu auras ta partie, ta place par rapport à la Géoula Beit HaMikdash, eh bien, en effet, n'est-ce pas, lorsque ce Beit HaMikdash sera construit grâce à tes tfilotes. Parce que sachez bien, il y a aussi un point qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsque la Géoula va arriver, eh bien la question aussi, de quelle façon on va y mériter. Est-ce que de façon facile ou difficile? Est-ce qu'on va être acteur ou spectateur? Est-ce qu'on va être proche ou éloigné? Ça va dépendre de nous. Dans la mesure où tu es intéressé, préoccupé par cette Géoula, ce Mashiach, eh bien, tu auras ta place dans ce palais royal, dans ce sanctuaire, ce Beit HaMikdash, ce temple. Ça dépend spécifiquement de notre filet. Alors en fait, ce n'est pas la peine de chercher midi à 14h, c'est très facile. Il faut agir dans deux tableaux différents, dans la Torah et dans la Tfila. Dans la Torah, comme on l'a dit auparavant, il faut s'intéresser dès maintenant, pendant 3 semaines, au texte qui parle de la Géoula, Beit HaMikdash, Mashiach. La période la plus propice de l'année par rapport à cela, eh bien, c'est précisément pendant ces 3 semaines. Plus on va s'intéresser, plus on va être concerné par cela. Parce que maintenant, quand on est en Beit HaMikdash, alors ça ne nous parle pas, ça ne nous dit pas. Mais lorsque tu vas lire, étudier, traiter des textes, des gmarot, des halachot, des midrashim, qui parlent de cela, tu vas te sentir concerné personnellement par cette geoula, ce Beit HaMikdash. Quand tu vas prendre conscience de ce qu'on avait, ce qu'on a manqué, ce qu'on peut bénéficier, ça va nous intéresser. Deuxièmement, eh bien, intensifier, prier, plus prier, et surtout intensifier la kavana, l'intention dans la tfila. Il y a ici une brochure très intéressante que je vous conseille, je vais essayer de vous la ramener, qui est très facile à lire, et qui ramène des faits vraiment intéressants et miraculeux, fabuleux, par rapport au Beit HaMikdash. Alors, aussi à constater que parmi 100 brachot que nous récitons tous les jours, on a 18% des brachot qui parlent de la Géoula.
on ne s'en rend pas compte. Dans chaque Amida, on a 6 brachot qui parlent de la Géoula. Mechaya Metim, Mekabet Nechamo Israël, Goal Israël, Bon Yerushalayim, Matzmer Kiren Yeshua, Amachazir, Shkinato Letzion. Donc en fait, c'est très simple. On te demande 18 brachot par jour, fais attention à ce que tu dis. Pense à ce que tu dis. Deuxièmement, à part ces 18 brachot, dans la Tfila Fête le Compte, on parle de la Géoula, Bet Amigdash et Mashiach, plus d'une centaine de fois. Donc en fait, tu le relates, tu le demandes plus de 100 fois par jour. Imaginez quelqu'un qui demande intensément du fond du cœur quelque chose 100 fois par jour. Mis à part que ça va agir dans le monde, lui-même, il va être métamorphosé. Tu vas être transformé par ta propre prière. Donc en fait, ce n'est pas la peine de chercher des grandes astuces. Uniquement la tfila que tu fais tous les jours, pense à ce que tu dis. Et ce n'est pas toujours évident. Alors au moins pendant ces 3 semaines, faire un effort de concentration, d'étudier les textes de Torah, d'étudier les paroles de la tfila qui nous parlent de la Géoula et du Mashiach.